Ézéchias, c'était un roi. Ça pourrait être pour nous un président. Ça pourrait être quelqu'un qui a la plus haute responsabilité. C'est quelqu'un qui a la plus haute responsabilité dans sa nation. Et comme tous les rois dans la Bible, quand on voit le peuple d'Israël et l'histoire du peuple d'Israël, on voit qu'il y en a certains qui faisaient ce qui était bien aux yeux de Dieu et d'autres qui faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et c'est un rappel aussi pour nous, en tant que croyants, de se souvenir que, bien sûr, il y a des élections, mais bien sûr, il y a la prière. Et que même s'il y a des rois, même s'il y a des présidents, même s'il y a des responsables de nations, pour le dire plus généralement, il y a aussi un Dieu. Et ce Dieu-là, lui, il nous dit « Prie pour tes autorités afin que tu puisses vivre dans la paix. » D'accord ? Ça a de quoi nous interpeller parce que, effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a des rois qui se sont succédés et certains qui faisaient ce qui était bien aux yeux de Dieu et d'autres, c'était à côté de la plaque. Ça n'allait pas et le peuple en a souffert. Et le peuple avait besoin de vivre dans la paix. Pour vivre dans la paix, il avait besoin de quelqu'un qui sache aussi considérer, qui sache considérer les voies de Dieu, qui sache considérer le fait que il y a plus que lui au-dessus de cette terre. Que les problèmes de ce monde sont une chose, mais au-delà de ça, il y a un Dieu. Savoir les résoudre en tant qu'homme, c'est une tâche quasi impossible. Mais en ayant la force, en ayant la sagesse, en ayant l'encouragement que procure la foi et la connaissance de Dieu, c'est encore une autre chose. Et c'est une chose qui peut être encourageante. Combien d'entre nous, on a pu être déjà nous-mêmes à notre niveau portés par le découragement? Par les questions où des fois on se dit « mais je ne comprends pas ». À ce moment-là, je sentais la présence de Dieu et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Dieu est absent. J'ai l'impression qu'il m'a laissé tomber. Et pourtant, la réalité, ce n'est pas celle-là que Dieu veut nous faire sentir. C'est celle de la persévérance, dans cette marche avec lui, dans cette recherche de sa face, dans cette recherche de ses projets. Et Ézéchias, c'est un homme dont il est parlé en Deux Rois. Et on a le portrait d'un homme qui fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, qui a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dans Deux Rois 18, on voit qu'il a fait disparaître tous les hauts lieux, tous les lieux de culte qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, avec des statues, avec tout un tas de choses, tout un tas de lieux de culte qui mettaient en avant des faux dieux, des dieux. Lui, il a su ramener la foi au Dieu unique, au Dieu véritable, à l'Éternel. Ézéchias, nous dit la Bible, était attaché à Dieu et ne se détourna pas de lui. Quelqu'un qui a marché dans les voies de Dieu. Il a réussi, nous dit la Bible, dans toutes ses entreprises. Il a réussi dans toutes ses voies. Et c'est la promesse que Dieu nous fait de réussir dans toutes nos voies si on marche à ses côtés, si on marche avec lui. Alors peut-être pas de la manière dont on s'y attendrait. Vous voyez, c'est une chose de savoir et de pouvoir se projeter dans certains projets, et c'est une autre chose que de pouvoir et d'accepter que ces projets soient dirigés et soient conduits de Dieu. De savoir se mettre en relation et en connexion avec lui. De savoir réclamer son conseil, réclamer sa sagesse. Et donc la démarche d'Ézéchias, elle est claire. Si une menace survient, Ézéchias, il s'humilie devant Dieu. Il a un secret, c'est celui-là. Il s'humilie devant Dieu et Dieu agit. Il y a un problème, Ézéchias prie, courbe son dos devant Dieu et Dieu agit. Ça, c'est la recette qu'il a. Et tout ça, c'est vrai, jusqu'au jour où, si vous connaissez l'histoire, Ésaïe vient et lui annonce sa mort. Il annonce qu'il va bientôt s'en aller, qu'il va bientôt laisser son trône, qu'il va bientôt laisser son royaume. Là, c'est Ésaïe, ça pourrait être un médecin, ça pourrait être n'importe qui annonce quelque chose de terrible, parce que dans le cœur de l'homme, cette vie est souvent ce qu'il y a de plus important. Cette vie est souvent ce fruit qui est là, qu'on veut absolument garder comme mur, mais qui, avec les années, se flétrit, flétrit de droite à gauche, n'est-ce pas? De plus en plus. Ah oui, non, c'est vrai, il y en a qui... C'est le botox, ça, c'est pas pareil. Mais on est là et on voudrait que ce fruit qui est là dans notre vie, qui est là, elle soit fraîche chaque jour, soit fraîche tous les jours. Et c'est vrai qu'avec la présence de Dieu, on peut être un fruit frais. Hein? On peut être un fruit qui ne pourrit pas de l'intérieur. Mais avec les années aussi, le corps, ben, il y a des choses qui deviennent plus difficiles. Il y a des choses qui... Et ça, c'est la réalité de la vie. Ça, c'est la réalité de la vie. Quand Ésaïe vient annoncer ça à Ézéchias, vient annoncer sa mort prochaine, c'est un coup dur pour cet homme. Pour cet homme qui a toujours su compter sur Dieu. Et finalement, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations dans lesquelles il s'est retrouvé, face à des rois, face à des choses difficiles, il a su prier Dieu, et Dieu l'a délivré de tout. Et c'est un coup dur pour cet homme, parce que ce prophète qui est là, qui est un homme de Dieu, vient lui annoncer quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Peut-être pouvait-il vivre jusqu'à 100 ans, peut-être pouvait-il aller jusqu'à 200, jusqu'à plus. Peut-être pouvait-il envisager, comme les anciens patriarches, d'aller bien plus loin. En tout cas, c'est quelque chose qu'il n'envisageait pas. Alors, on va prendre le passage dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, où ce moment nous est raconté. Et on va faire une lecture du passage. Alors bon, il y a une vingtaine de versets. Mais bon, si on était dans une église liturgique, on prendrait des passages très longs, on saurait les lire, on aurait ce temps de lecture de la Bible. Donc on va le faire pendant le temps de la prédication. Et au moins, on a le temps de se mettre un petit peu dans ce passage, de l'appréhender peut-être un peu mieux. Donc, 2 Rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues, on l'a pris. » On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodad-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi d'Ézéchias et lui dit « Mais qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? Voilà, j'arrête là, parce qu'après, bon, donc, Ézéchias, etc. Donc voilà l'histoire d'Ézéchias. C'est une lecture un peu longue. Mais c'est la Bible. Amen. Souvent, la première réaction qu'on a face à cette histoire, c'est de dire « Ah !» Il aurait quand même mieux valu qu'Ézéchias meure sans faire ses 15 années, hein, plutôt que de terminer ainsi. Hein. C'est un peu dommage. C'est un peu triste quand même. Un homme qui a marché toute sa vie avec Dieu. Un homme qui a fait, qui a réalisé tout ce que Dieu voulait. Dieu vient lui annoncer qu'il doit partir. Il pleure. Dieu le guérit, ok. Et puis, voilà que la suite est bien moins glorieuse. Et donc on pourrait avoir raison de penser ainsi, bien sûr, mais il y a quand même une leçon qui est importante à tirer de cette lecture, de cette histoire. Parce que finalement, quoi de plus normal quand on fait face à une telle annonce que de s'humilier devant Dieu. Si quelqu'un nous annonce que demain, dans les jours qui viennent, dans les mois, ou ça peut venir vite, hein, ou dans les années qui viennent, voilà, il faut qu'on se prépare. Quoi de plus normal que de pleurer, de s'alarmer, de s'attrister, de venir devant Dieu, de s'épancher devant Dieu. C'est une chose tout à fait normale. Mais dans le cas d'Ézéchias, ça met en avant certains points un peu sombres de sa personne, un peu sombres de sa personnalité. Et dans Deux Rois, donc, qu'on a lu au verset, donc chapitre 1, verset 1, verset 1 à 3, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donne tes ordres à ta maison. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à Dieu. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et donc, Ézéchias, effectivement, avait fait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions agréables à Dieu. Agréables aux yeux de Dieu. Et finalement, quand il vient et qu'il implore grâce à Dieu, ce qu'il met en avant, ce sont ces œuvres-là. Ce qu'il met en avant, c'est ce qu'il a fait de bien. Et la première révélation de ce passage, c'est déjà qu'il n'avait pas prévu de mourir. Il n'avait pas prévu sa fin. C'était un roi, c'était un chef, c'est le chef d'une nation qui avait une grande responsabilité, qui avait, tout un peuple qui était derrière. Il n'avait pas pris la mesure qu'un jour, il devait prévoir la suite de sa vie, la succession. Est-ce que ça, c'était un jugement de Dieu à son égard ? Non. Ésaïe n'est pas venu en lui disant « Voilà, tu as fait ce qui est mal, Dieu va te reprendre. » Il n'est pas venu lui dire ça, il est simplement venu en lui faisant quelque part une faveur. Parce qu'il lui a annoncé sa fin prochaine. Dieu n'est pas tenu de nous annoncer notre fin prochaine. Dieu n'est pas tenu de le faire. Mais dans son cas, il l'a fait. Il n'avait rien fait de mal. Ce n'était pas une condamnation. On est tous voués à partir un jour ou l'autre et à nous préparer à cette rencontre avec Dieu. À nous préparer à notre rencontre avec Dieu. À préparer la suite de ce que nous sommes aussi, ici-bas. Dieu le prévient simplement de son heure, que son heure est arrivée. Surtout parce que, afin qu'il ait le temps de donner ses ordres, comme dit la Bible, à sa maison. Visiblement, donc, Ézéchias n'avait rien prévu. Et Ézéchias n'avait apparemment pas conscience, finalement, que son temps sur terre n'avait pas une destinée éternelle. Nous qui sommes croyants, nous savons que notre destinée est éternelle. Nous savons que par la grâce de Dieu, pas par nos forces, pas par nos moyens, pas par nos efforts, par la grâce de Dieu, nous avons une espérance bien plus grande que cette vie ici-bas. Nous avons une espérance bien plus grande parce que notre Dieu est éternel. Donc est-ce qu'on peut lui reprocher à Ézéchias d'être dans cette attitude ? Eh bien, nous aussi, donc, on ne connaît pas l'heure de notre mort, et si quelqu'un venait nous l'annoncer, peut-être on ne serait pas mieux loti. Peut-être qu'on ne serait pas mieux loti que lui. D'ailleurs, en fait, en général, donc Dieu n'annonce pas généralement les choses trop en avance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on aimerait bien, je sais pas, qu'un prophète vienne et nous annonce des grandes choses de ce qu'on va faire dans notre vie. Et ça peut être vrai dans des grandes lignes. Mais dans le détail, il ne nous raconte pas comme ça comment on va souffrir, comment on va en baver, comment on va... Parce que ces moments-là, ce sont des moments privilégiés aussi avec Dieu, dans lesquels nous apprenons. Dans lesquels, eh bien, ce qu'on n'avait pas prévu, ça arrive. Et au travers de ces moments-là, on découvre des fois quelque chose même de notre personnalité, qui a besoin d'être réajusté, ou quelque chose même de la vie, que les paroles, que les mots, que l'instruction, la lecture qu'on peut en faire ne suffisent pas. Parce que la souffrance et tout ce genre de choses-là, ce ne sont pas des mots qui les définissent, mais c'est peut-être même l'empathie, le fait qu'on puisse comprendre ces choses-là, mais des fois Dieu nous permet de vivre des choses difficiles pour que l'on puisse les comprendre, pas uniquement de la réflexion, mais aussi de l'intérieur, de nos tripes. Dieu nous invite à vivre la vie avec nos tripes, avec ce qui vient au plus profond de nous, ce qui vient du plus profond de nous. D'ailleurs, si on connaissait tellement de choses, on pourrait des fois même s'enorgueillir. Il y a beaucoup de choses qui pourraient venir et qui nous empêcheraient d'atteindre cet objectif-là. Dans sa sagesse, Dieu fait connaître à son serviteur la fin de son service. Son temps est révolu, et ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, comme je l'ai dit, mais il s'agit d'une décision de Dieu qui se révèle peut-être pour une raison simple, préparer la suite, préparer la succession du trône. Et c'est finalement l'ordre qui lui a été donné, c'est la mission qui lui a été donné, c'est l'objectif que lui a donné Dieu pour prolonger sa vie. Il ne l'a pas laissé en disant « Ok, je vais te laisser... » Il dit « D'accord, mais prépare la suite. Prépare la suite de ce royaume. » Et l'autre jour, je regardais avec mon épouse à la télé, dans une émission coréenne, une histoire qui était très touchante, c'était celle d'une actrice chrétienne, une actrice très croyante, très connue, qui a un témoignage vraiment puissant, vraiment profond, et cette actrice participe à des séries, donc des séries sur un certain nombre d'épisodes, et elle a appris avant la fin donc qu'elle avait un cancer. Et qu'elle allait partir très rapidement. Et ça a été très dur pour elle, pas tant le fait de savoir qu'elle allait partir, comme elle l'a exprimé, mais le fait de savoir qu'elle abandonnait les autres. Que ça allait poser un problème, alors c'est vraiment... que ça allait poser un problème pour cette mission qu'elle avait d'être dans cette série. C'était pour elle, c'était son ministère. Et elle a eu une prière, elle a prié, elle a raconté qu'elle avait une seule prière par rapport à ça, elle dit « Ok, moi je veux bien partir, mais Seigneur, permets-moi de terminer cette émission, permets-moi de terminer cette série, ces épisodes. » Et alors que les médecins la disaient « Partir comme ça », eh ben sa vie s'est prolongée, elle s'est poursuivie. Elle a continué donc à témoigner, elle a continué à faire son ministère. Tout ça. Et je voyais, on voyait avec Annie une émission finalement sur sa vie qui témoigne de ce que Dieu a fait de grand et dont ce cas-là précis, parce que c'est très récent, dans ce cas-là précis où ils ont filmé aussi le dernier épisode, juste après, là où tout le monde se retrouve et tout le monde lui dit au revoir. Et c'était vraiment un moment. Tout le monde lui disait au revoir, tout le monde lui disait. Savait que c'était la dernière fois qu'il allait. Et elle était tout sourire. Fatiguée, mais elle était tout sourire. Elle avait accompli ce que Dieu voulait, et quelques jours après, elle est partie. C'est la puissance de la prière dans la volonté de Dieu. C'est la puissance de cette recherche de qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie. D'accord, j'accepte ta volonté, mais laisse-moi le temps de la terminer jusqu'au bout. Laisse-moi le temps de parachever cette œuvre que tu as commencée en moi. Pas pour moi, mais pour ce que tu veux faire. Pas pour moi, mais pour ce que tu accomplis au travers de ma vie. Moi, ma vie, elle est auprès de Dieu, dans l'éternité. Et Ézéchias ne regarde pas ça de cette manière-là. Il voit sa vie, mais lui, il voit les grandes œuvres qu'il a accomplies. Et pour lui, la fin de sa vie, ben, ça annonce la fin de tout. Ça annonce la fin de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait de grand, de glorieux, de fort. Tout ce qu'il a accompli, certainement dans la prière, en demandant l'aide de Dieu, mais au final, ce qu'on voit, c'est qu'il est très attaché à cette œuvre qu'il a accompli. Il est très attaché à cette œuvre du moment. Et la prière qu'il adresse à Dieu est très révélatrice. Parce qu'il dit « J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Tu vois ça, Seigneur ? « J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » C'était la réalité. Il ne mentait pas. Mais c'est ce qu'il présentait devant Dieu pour implorer sa grâce. Oubliant peut-être que dans toutes ses voies, il est passé par la prière et il a vu l'œuvre de Dieu derrière cela. Et ça pourrait être les pensées qui passent dans notre cœur, la bénédiction, le malheur. Ils sont parfois mis sur le compte de nos mérites devant Dieu. Ce qui se passe de bien ou de mal, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie que ça commence à mal se passer, comment ça se fait que j'ai l'impression que tu es loin de moi, est-ce que j'ai fait vraiment quelque chose de mal, pourquoi est-ce que tu t'éloignes, j'ai le sentiment que tu t'éloignes de ma vie. Et c'est souvent ça qu'on fait, la bénédiction et le malheur sont mis au compte de nos mérites devant Dieu, alors que tout est grâce, tout est une faveur que Dieu nous accorde, une faveur qu'il nous accorde dans son amour. Une faveur qui nous accorde dans la passion qu'il exprime à notre égard. Combien de fois j'ai été étonné de me dire, d'avoir cette impression, « Ah, j'ai fait mal, Seigneur, tu vas m'en vouloir », et d'avoir l'impression que Dieu derrière me soutenait. Mais je ne mérite pas ça. Je mériterai, Seigneur, d'être repris, d'être corrigé, d'être... Et ça peut venir. Ça peut venir parce que quand on fait quelque chose, s'il y a des conséquences, les conséquences, elles sont là. Mais la grâce et l'amour de Dieu ne se tarissent point, nous dit la Bible. La grâce et l'amour de Dieu sont toujours présents pour nous accompagner. Quel que soit ce que nos yeux voient, quel que soit ce que nos sentiments ont l'impression de nous faire sentir, comme dit notre frère, les sentiments mentent. Quelle que soit l'impression qu'on peut recevoir, la grâce de Dieu ne se tarit pas pour nos vies. Et l'objectif de Dieu, si on pêche, si on est dans de mauvaises voies, c'est pas de nous encourager dans ces mauvaises voies. C'est pas de nous faire payer le prix de ces mauvaises voies, c'est de corriger cela. Si Christ est venu, c'est pas pour être un jugement pour nous, c'est pour être une gloire à présenter devant Dieu. La seule gloire que nous soyons en mesure de présenter devant Dieu, c'est de dire « Je connais Jésus-Christ. Je connais cette faveur qui m'a été faite un jour, alors que je méritais de mourir, alors que je méritais d'être châtié, alors que je méritais la colère de Dieu. Cette gloire qui est la mienne, ce n'est pas celle que je peux, moi, exprimer. C'est celle que Christ a exprimée devant à la croix et par laquelle il a payé pour toute chose. Par laquelle, alors que le fusil se présentait comme ça devant moi, Christ a pris cette balle. Christ a accepté de prendre le poids de mes péchés, a accepté de souffrir. Et par cette œuvre à la croix, on peut mesurer que nous-mêmes, si ce n'est que par nos mérites, si ce n'est que par notre force, nous allons sur cette croix. Parce que Christ a porté le poids du péché du peuple. Et la conséquence de ça, c'est qu'il est mort à la croix. Ça, c'est la conséquence du péché des peuples. Et si nous venons avec nos mérites, avec ce que nous savons faire de bien, avec ce que je fais dans l'Église, ce que je fais à droite, à gauche, pour Dieu, même si j'évangélise, même si je fais des choses extraordinaires, et je peux dire, moi, je suis quelqu'un qui fait ça, moi, je suis quelqu'un qui fait telle autre chose, eh bien, tout ça, ça n'a aucune valeur. Tout ça, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Parce que le secret de notre cœur, qui peut se placer, s'humilier devant Dieu le Père, devant cette grâce, en considérant, en réalisant que nos œuvres ne suffisent pas, en réalisant que tous les moyens que nous voudrions mettre ne sont pas suffisants, si nous réalisons cela, nous serons beaucoup mieux nous humilier devant Dieu en réalisant que mon œuvre, ce n'est rien, mais l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est tout. L'œuvre de Dieu dans mon cœur, c'est tout. Et Seigneur, j'ai besoin que tu visites mon cœur. J'ai besoin que tu visites ces endroits des fois cachés dans ma vie, cachés derrière un sourire, cachés derrière de belles paroles que je tiens bien cachées. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes là. J'ai besoin que tu m'aides en lumière. Alors peut-être pas en lumière de tout le monde, mais j'ai besoin de régler ça devant toi aussi. Pour progresser, pour avancer, pour aller plus loin. Parce que notre connaissance de Jésus-Christ, notre connaissance de Dieu, ne s'arrête pas à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais elle se prolonge de jour en jour, jusqu'à ce jour où nous le verrons face à face. Jusqu'à ce jour où nous comprendrons toutes choses comme nous n'avons jamais pu le connaître. Si je traverse une période difficile, c'est que Dieu doit me reprocher quelque chose, des fois on pourrait penser. Et si au contraire je suis béni, c'est que Dieu doit être content de moi. Ça, c'est les travers dans lesquels, en tant que croyant, enfant de Dieu, il faut nous garder de ne pas tomber. C'est comme ça qu'on marche bien souvent, et des fois même, parfois sans s'en rendre compte, on pense que Dieu nous donne parce que nous méritons. Et Job, ne pensez pas ainsi. Job, on connaît bien Job, hein? On n'a pas envie de mener la vie de Job, hein? Il n'y a jamais personne qui dit, qui veut mener la vie de Job? Waouh, non, ça arrive. En général, on dit, attends, t'es sûr, là, tu ne voulais pas parler de quelqu'un d'autre, là? Mais bon, même si on levait la main pour mener la vie de Paul, elle n'est pas facile. C'est pas, même si on devait la main pour mener la vie de Pierre, pas facile non plus. Hein. Pareil, enfin, l'histoire nous raconte qu'il serait mort crucifié à l'envers. C'est l'ensemble des disciples, leur histoire n'a pas été facile. Hein? Mais la vie qu'ils ont menée, c'était une vie glorieuse. Dans le regard de Dieu. Et Job, donc, dans Job chapitre 2, versets 9 à 10, sa femme lui dit. Sa femme, hein, qui était son meilleur allié, hein, normalement. Mais sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi ? Et qu'on recevrait de Dieu le bien, et on ne recevrait pas aussi de Dieu le mal ? En tout ça, Job ne pécha pas. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Donc ça aurait pu être très tentant pour Job de dire, « Mais quand même, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que Dieu fait ?» Et il avait conscience que Dieu était celui qui gouverne et qui règne. Plus que lui-même sa propre vie. C'est celui qui savait mener les affaires de sa vie. La grâce de Dieu ne s'achète pas. Et de même que le malheur et le bonheur ne sont pas les gages de notre mérite. Alors la suite pour Ézéchias, on va quand même revenir sur Ézéchias, elle paraît un peu prometteuse, hein, parce que Dieu entend les larmes de cet homme. Alors Isaïe était déjà parti, il était déjà en chemin pour retourner à sa maison, se préparer peut-être un petit repas, enfin je veux dire faire ce qu'il devait faire. Quand la parole de Dieu est venue, il était encore dans le parvis, il était encore en bas, quoi. Et Dieu lui parle, il dit, attends, retourne. J'ai encore quelque chose à dire. Et il lui donne donc 15 années de vie supplémentaire, et on a le temps d'en faire des choses en 15 ans, quand même. Nous, on lit ça, c'est facile, hein. On lit ça comme si c'était une seconde, ou je sais pas. Mais 15 ans, c'est, quand on mesure, c'est long. Et quand je parle avec mon neveu qui a bon, maintenant 17 ans, mais je me souviens que j'avais parlé, il avait 15 ans de ça, et qu'on parlait de films, on lui dit T'as vu ces films ou quoi ? Il me dit non, mais moi j'avais 10 ans à cette époque-là. Pour lui, déjà 5 ans, ça faisait beaucoup. Et moi, j'avais pas mesuré que moi, c'était hier, quoi. 15 ans, c'est pas mal. Ça en laisse le temps d'en faire des choses. Mais de ces 15 années, on sait pas grand-chose. Sauf à aller dans le livre des Chroniques, au chapitre 32, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32, et à partir du verset 24, bon, je sauterai quelques passages parce que je ne vais pas tout lire, mais. Donc, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24. Donc, il nous est dit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Je vais sauter, je vais aller jusqu'au verset 30. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue. Bon, voilà, c'est encore les œuvres. Hein. Là, il y a toutes les œuvres d'Ézéchias. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises, verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige, qui avait eu lieu dans le pays, bien Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions, etc. Voilà. Donc il nous est dit premièrement que, au verset 24, qu'Ézéchias ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Ça fait réfléchir, parce que ben, c'est un petit peu comme si, voilà, Ézéchias avait fait beaucoup de choses, il avait réalisé de grandes œuvres, et il avait simplement oublié qu'au-dessus de lui, il y avait quelqu'un qui l'avait aidé dans cette tâche. Son cœur s'éleva, c'est-à-dire que dans tout ce qu'il avait fait, il en est arrivé à considérer que c'était lui qui l'avait réalisé. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, nous dit le verset 31, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Ézéchias reçut des dignitaires, des gens nobles d'autres pays, pour une seule chose, leur montrer sa gloire, ce qu'il avait accompli. Et il savait qu'il était en rémission, et finalement, l'emploi du temps d'Ézéchias, c'est d'aller montrer, d'aller écrire une sorte de mémoire sur tout ce qu'il avait accompli d'extraordinaire, d'aller témoigner auprès de tout le monde de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait reçu. Le prodige de Dieu, au lieu de le rendre humble, a fait ressortir en lui quelque chose d'assez triste, c'est un ego qui était très prononcé, un orgueil qui était là. Mais ne nous trompons pas, cet orgueil-là sommeille en chacun de nous. Hein? C'est très facile d'être gagné par l'orgueil. Et la Bible nous raconte combien même le diable a chuté à cause de l'orgueil. C'est pas rien, d'accord? C'est subtil. C'est imperceptible. Un petit murmure qui vient dans notre vie et qui nous dit « Tu es plus important que tout, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé, regarde ça. » Au lieu de savoir reconnaître là où Dieu a agi, là où Dieu est intervenu, même aux yeux des gens qui diront « Ce n'est pas, c'est pas vraiment l'œuvre de Dieu. » Il ne faut pas se leurrer, hein. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne viendront jamais dire « Oh !» Enfin, peut-être certains, mais la plupart du temps, ils chercheront et trouveront d'autres raisons que le fait que j'ai prié et Dieu a agi. J'ai regardé une émission sur... Je ne sais pas si vous avez déjà vu... je ne sais plus en quelle année, mais il y a eu un preneur d'otages aux États-Unis qui a pris en otage une école... des enfants. Il y avait 120 enfants. Il y avait 120 enfants qui étaient pris en otage. Il était venu, lui, avec une bombe, avec une grande bombe. Et tout le monde a estimé que par rapport à cette bombe qui était placée dans une pièce avec tous les enfants réunis, tout le monde a estimé que par rapport à cette bombe, eh bien, non seulement cette pièce-là, mais le bâtiment entier aurait dû être soufflé. Donc, aucun survivant, rien du tout. Et les gens, bien sûr, il y a eu des témoignages, des gens qui ont parlé, qui ont dit, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc la bombe a explosé parce que voilà, la femme du preneur d'otage, est d'un coup devenu un peu comme fou, et il est parti dans un coin, il a laissé la bombe à sa femme, donc il y avait juste un fil, elle s'agitait un peu, et ça menaçait d'exploser, devant tout le monde qui s'est attendu. Et cet homme, lui, est parti, ils ont découvert qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Alors qu'il avait une attitude très... comme ça, d'un coup, il y avait quelque chose qui a fait qu'il a changé d'attitude. Cette femme, elle s'est agitée, c'était sa femme, hein. C'était un couple, elle s'est agitée, et puis la bombe a explosé. Tous les enfants étaient vivants. Aucun n'a été touché par le souffle de cette bombe. Et il y a des témoignages extraordinaires. C'est très intéressant parce qu'il y a des témoignages extraordinaires parce qu'il y a certains enfants qui ont dit « On ne sait pas pourquoi, mais on était assis là et on a vu une lumière, une lumière qui était là et qui, c'était comme si elle nous parlait, elle nous disait « Allez vous asseoir plus là-bas. » Et il y a plein de témoignages comme ça, des gens qui disent « On ne sait pas pourquoi, on a fait ça. » Et puis certains ont vu un ange qui était là juste avant qu'il y ait eu l'explosion, qui se tenait. Et quand vous regardez ça dans l'émission française, alors c'était, je crois que c'était Pierre Belmar qui voilà. De leur point de vue, il s'agit d'un prodige, d'un miracle. La science nous dira, les experts nous diront que peut-être la bombe était mal faite, il y avait de l'eau qui a coulé dans la bombe, du coup elle n'a pas pu bien exploser. Il y avait tout un tas de choses. J'ai dit, ouais, mais attendez, les gens ont dit qu'il y avait une lumière, oui, bon, des hallucinations, la peur, tout ça. Il y a toujours des raisons pour tout. Il y a toujours des raisons pour tout. Mais le miracle de Dieu peut être réel. Le miracle de Dieu peut être vrai. Et si ces gens, tous ces gens-là, ces enfants, ces parents, ces professeurs qui étaient là dans cette école, qui ont dit, c'était un miracle. Et pourquoi est-ce qu'on n'admettrait pas qu'il s'agit là vraiment d'un miracle. C'est impossible pour celui qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu. Mais nous qui sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, pouvons non seulement le considérer, mais aussi en témoigner. Mais aussi savoir être ce témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Le cœur d'Ézéchias s'est levé pour montrer ses richesses, ses biens, tous ses biens. C'était une manière de montrer ses batailles, ses victoires, la guerre, la réussite sociale, toutes ces choses-là. Et tout ça sans que Dieu y soit pour quelque chose. Sans que Dieu ait son mot à dire. Ses biens, les biens qu'il avait acquis, étaient devenus sa gloire. C'était sa gloire, c'était sous son univers. Et il court après ça. Effectivement, Dieu est heureux de ce qu'il ait marché avec lui, mais la fin est moins glorieuse. Son mal profond, c'est peut-être de vouloir prouver qu'il existe, qu'il est toujours là, que dans les générations futures, c'est lui qui a accompli des choses, qu'on lira. Ézéchias a fait tout ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, mais on peut lire aussi que la fin, ce n'est pas terrible. C'est vrai, mais il aurait peut-être voulu que ce soit écrit. Ézéchias a fait de grandes choses, point. Il a accompli de grandes choses, point. Voilà quel était l'homme. Et finalement, le prolongement de sa vie, eh bien, ça lui a permis de profiter plus longtemps de ses biens, de sa gloire. Il ne voit pas plus loin que sa vie. Il ne voit pas plus loin que sa propre vie. Il ne considère pas à ce moment-là, au-delà, ce que Dieu est. Et là, ça ne va pas, parce que avec tout ça, Ézéchias n'a pas préparé sa succession. Il n'a pas réalisé, Dieu lui a... Parce qu'il faut aussi lire un petit peu entre les lignes, c'est que pendant ces 15 ans, celui qui lui a succédé s'appelle Manassé. Manassé, avec quel âge? Lorsqu'il prit le royaume, il avait 12 ans. Donc, Manassé est né pendant cette période. Il est né pendant cette période des 15 ans. Et quand Dieu lui dit, prépare ta maison, prépare tout ça, ok, tiens, 15 ans, prépare ta maison, il lui a donné en même temps un fils à préparer. Il n'a pas laissé comme ça en disant, ben voilà, tu fais... Non, il lui a donné ça. C'est là la plus grande tristesse par rapport à cette histoire, c'est la chose la plus terrible, c'est que Manassé a détruit tout ce que son père a fait. Manassé n'a pas marché dans les voies de Dieu. Tout ce que son père a fait, Manassé a cherché à faire le contraire. Il a rétabli les autels, il a rétabli les cultes aux faux dieux, il a rétabli tout un tas de choses. Et bien sûr, ça a été parmi l'un des pires de tous les rois d'Israël. C'est terrible quand même. Ézéchias avait tout entre les mains pour préparer la suite. Et Dieu lui avait donné cette graine à faire pousser de la bonne manière pour que lorsque lui sera couché avec ses pères, cet arbre-là puisse être un arbre solide entre les voies de Dieu, entre les mains de Dieu. Sans doute, Ézéchias, durant son temps de rémission, n'a eu d'intérêt, en fait, finalement, que pour lui-même. Il pouvait profiter de la vie, devenir, je ne sais pas, le nombril du monde. Mais pendant ce temps, son royaume, sa gloire, tout ce qu'il mettait en avant, pendant ce temps-là, eh bien, tout ça, ça courait à sa perte. Tout ça était en train de s'effondrer, en fait, sous ses yeux, parce que, à ce moment-là, il ne marchait pas dans les voies de Dieu. Et c'est intéressant de voir la réaction d'Ézéchias lorsqu'Ésaïe. Ça va, c'est bon, c'est bien. Je suis inquiet, c'est très silencieux. Mais en tout cas, voilà. Quand Ésaïe est venu voir, lui annonce que tout ce que ses pères ont construit, donc tout ce qu'il a réalisé, eh bien, il n'en restera rien. Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Sérieux. Quand on lit ça, on pourrait se dire que quand même, Ézéchias, finalement, au début, il reste dans le respect de l'autorité divine. Hein. Il accepte ce que Dieu fait, il accepte l'annonce terrible qu'Isaïe vient lui faire, que comme quoi son royaume, ben voilà, il va pas perdurer, ok. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. 15 ans plus tôt, on lui annonce qu'il va mourir, il plonge dans la tristesse la plus grande. Et puis désormais, on lui annonce qu'à sa suite, il ne restera rien, et quoi. Et finalement, il est dans une sorte de fatalisme. Voilà, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est... Sa dernière phrase relance vraiment le regard qu'il place sur tout cela. N'y aura-t-il pas de paix et de sécurité pendant ma vie? Encore une fois, c'est de sa vie qu'il s'agit. Peu importe ce qui vient ensuite, c'est triste. Je ne serai plus là pour voir. C'est pas grave. Moi, je vis ma vie pleinement. Ce qu'il y aura après, peu importe. Et sérieux, c'est pas des réflexions qu'on retrouve, ça, des fois. Ça arrive fréquemment de voir les gens penser à ça. Alors encore plus dans nos pays très égocentriques, repliés sur lui-même, c'est chacun pour soi, et de dire, moi, ce qui se passe là, moi, ça m'importe pas, moi, déjà, c'est moi. Et on a vu une fois précédente que finalement, même au Jardin d'Éden, c'était la conséquence du péché. Ce péché-là, le péché de nos vies, le péché... S'il veut s'exprimer, il va commencer par s'exprimer par un recentrement sur nous-mêmes, par un recentrement sur mes intérêts, sur ce que j'ai, sur qu'Adam, nu, il ne réalisait pas, la première conséquence du péché, c'est qu'il se tourne vers lui-même, et il réalise lui-même, donc je l'avais partagé une autre fois, réalise lui-même, alors que Dieu est un Dieu qui veut encourager chaque individu à se tourner vers l'autre, à grandir dans le contact avec les autres. Et dire, c'est prouvé que un cerveau seul ne grandit pas, il s'atrophie. Si on est isolé, quoi, s'atrophie. On a besoin de se tourner vers les autres pour grandir. On a besoin d'être confronté les uns avec les autres pour grandir. Vous étonnez pas si des fois des fois on n'est pas forcément trop d'accord ou quoi, mais oui, parce que Dieu nous demande de trouver un terrain d'entente basé sur sa parole, bien sûr, mais des fois le faire il dit le faire, d'accord, ça frotte, ça fait des étincelles, ça peut arriver, mais c'est pas le bout du monde, c'est pas la fin de l'histoire, parce que la suite de l'histoire, c'est nous qui la traçons par notre attitude de cœur, par notre désir de réconciliation, par notre désir de repentance, par notre désir de voir les choses être plus à la lumière de Dieu, dans tout ce qui nous concerne. Le regard d'Ézéchias n'allait pas au-delà de sa propre vie, et il ne se projetait pas du tout dans l'avenir. Il regardait vraiment ce qu'il y avait là, seule chose qu'il a apporté, qui importait, c'est la manière de réaliser lui dans le temps présent, peu importe après. Et finalement, il plonge dans une sorte de fatalisme, ouais, de fatalisme spirituel. Fatalisme spirituel. Mais en fait, ça cache plutôt un mépris des événements, un mépris de ce qui a été réalisé. Ça devait arriver ainsi, c'est comme ça, Dieu l'a voulu. C'est vrai que ça peut être une réalité. Dieu l'a voulu, mais nous avons quelque chose à voir avec l'histoire. Nous avons un sillon à tracer dans l'histoire de Dieu. Nous avons un sillon à tracer, à être une flèche dans le carquois de Dieu. Une flèche dans sa volonté. Une flèche pour atteindre le but que lui veut. Et nous pouvons nous positionner par rapport à certains événements. Nous pouvons décider de dire, moi ça, ok, ça peut être comme ça, mais je vais encore me placer devant Dieu, je vais encore chercher la face, je vais encore réaliser, mais où est-ce que ça, où est-ce que j'ai été? On pourrait croire que ça fait spirituel, mais ça n'a rien de spirituel. Cette réaction d'Ézéchias, c'est même plutôt dramatique, parce que vraiment, ça disait, voilà, tant pis. Tant pis. Voilà, ce sera ce que ce sera, c'est pas grave, il se désengage de tout ce qui ne le concerne pas finalement directement. Et de manière identique, hein, on connaît peut-être le sacrificateur Élie, qui avait la charge du temple, donc pas Élie le prophète, le sacrificateur Élie du temps de Samuel. Donc Samuel avait été confié à un sacrificateur dès sa jeunesse, et un prophète extraordinaire, mais le sacrificateur lui-même, ben, il y avait des choses qui n'allaient pas trop bien. Ça n'allait pas trop bien de sa vie. Et lui qui avait la charge du temple, lorsque Samuel, étant enfant, ayant entendu la voix de Dieu, arrive de manière identique devant le sacrificateur, et alors qu'il est petit, ben, il lui confirme que Dieu va agir contre sa maison et ses fils, parce que ses fils, ils faisaient n'importe quoi. Encore un de ses fils, là, voilà. Et bien, il répond, ben, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui se semblera bon. Ce qui lui semblera bon. Voilà. Il n'intercède pas, il pleure pas, rien. Il a juste baissé les bras. Il a juste baissé les bras. Et j'ai la conviction que ce que Dieu veut trouver dans le cœur de chacun de nous, ce sont des hommes, des femmes qui savent lever les bras. Qui, si on n'a pas la force, on sait demander à quelqu'un à nos côtés de nous aider à lever ses bras. Hein? Pour être toujours un vecteur de bénédiction, toujours un vecteur de gloire, toujours celui, celle qui sera une gloire pour le nom de Dieu, une gloire pour l'œuvre de Dieu, et pas uniquement, pas pour nous. Et de même pour Ézéchias, alors qu'il est battu pour sa propre vie, il s'est battu pour sa propre vie, devant celle des autres, pour son royaume, pour devant tout ça, sa descendance, ben tout ça, il va se les voir. Alors qu'il a un royaume à mener, alors qu'il a tout ça, il n'y a que lui. En fait, ça ne l'intéresse pas, c'est seule sa vie qui compte à ses yeux. Et il n'a même pas d'esprit de repentance. Il n'a même pas la force, il n'a même pas la pensée de venir devant Dieu et de s'humilier. Et au début de cette histoire, il nous est dit qu'il marcha dans toutes les voies de son père David. Et par contre, dans celle-là, David, confronté à une situation même identique, a su s'humilier. A su, parce que là, lui, c'était plus important, si par contre tout ce qu'il avait fait, c'était la catastrophe, David avait su s'humilier. Et tant de choses se passent aujourd'hui. Et des fois, on pourrait se dire, bah, ça doit bien arriver, ce qui doit arriver, ça arrivera. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, mais on a un fardeau à prendre. On a une trace à laisser sur cette terre. On a une trace à laisser sur cette terre, pas pour que nos noms soient inscrits dans le livre, dans un livre quelconque sur la terre, mais que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Que nos noms soient inscrits dans ce livre éternel et que le nom de Dieu soit inscrit dans le livre des hommes. C'est l'objectif qu'on peut avoir. C'est cette construction qu'on peut faire vers l'avenir. Et donc, construire vers l'avenir, pour l'avenir de ceux qui nous suivront. Pas seulement de nos vies. Savoir porter les fardeaux de notre siècle. Pas avec un regard tourné vers nous-mêmes, vers nos intérêts et l'intérêt du royaume. Savoir aussi regarder nos vies dans la vérité, telles qu'elles sont vraiment. Seigneur, je suis faible. Qu'est-ce qui peut se passer de glorieux dans ma vie sans que toi, tu n'en sois l'initiateur? Qu'est-ce qui peut arriver sans que je n'aie une louange à t'adresser pour te remercier, pour élever ton nom, pour rendre gloire à ce que tu accomplis dans ma vie et ce que tu veux accomplir dans la vie de ceux qui m'entourent, dans la vie de ceux que je côtoie? Nous sommes des brins d'herbe qui passent. Tournons nos regards vers l'espérance et la gloire céleste, comme avec cet exemple de Christ. Il est venu pour servir plutôt que d'être servi. Et en cela, il a donné aussi l'exemple. Il a placé la vie des autres avant sa propre vie. Et bien sûr, au-delà de l'espérance de l'homme, Dieu a accompli ce miracle de la résurrection. Mais aux yeux de tous, dans cette époque-là, avant que nous sachions lire dans nos livres, dans nos Bibles, que Christ est ressuscité, aux yeux de tous, il était mort, comme un simple homme. Et Dieu l'a ressuscité. Et Dieu l'a ressuscité. Non pas selon les œuvres, mais selon la gloire de Dieu. Selon ce que Dieu accomplit. Selon ce dans quoi Dieu nous encourage. Et s'il est des difficultés, s'il est des chemins qui sont un peu comme des défis, s'il est des choix, s'il y a des choix à faire dans ces choix-là, ce n'est pas tant la réponse que nous allons donner qui va apporter, mais la manière dont nous allons répondre. Parce que Ézéchias, dans toute sa vie, a répondu de la bonne manière, a répondu correctement, mais la manière selon laquelle il a répondu cacher quelque chose dans son cœur que Dieu a révélé à la fin. Et il ne l'a pas éprouvé comme ça, pour le plaisir d'éprouver, pour dire « Ah, je vais te faire souffrir ». Non, ce n'est pas ça. Mais pour que toute chose vienne à la lumière et qu'il puisse le régler. Si Dieu met en lumière quelque chose dans nos vies, quel que soit cela, ce n'est pas pour nous accuser, ce n'est pas pour nous dire « Hé, tu vois là ce que tu as fait là, ce qu'il a ?» T'es fichu là, ça va pas. Attends, je vais te mettre en colère, non. Ça, c'est le diable qui le fait. C'est pour que nos vies soient transformées de gloire en gloire par le Seigneur, par l'Esprit. Pour que nos vies mènent un chemin qui se poursuit dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de ses souffrances, dans les défis qu'il a eu à affronter, dans le fait que même si l'œuvre pouvait être au rendez-vous, ce n'est pas ça qui l'a ressuscité. C'est le fait qu'il a été fidèle jusqu'au bout, à cette gloire qu'il connaissait et qu'il reconnaissait et qu'il proclamait de Dieu, du Père, de celui qui est au-dessus de tout, au-dessus des rois, au-dessus des chefs, au-dessus des présidents, et pour lequel il nous invite à prendre part dans la prière, dans le témoignage, dans la recherche de sa grâce. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu, les défis qui peuvent être les nôtres, Seigneur, sont des défis que nous voulons placer devant toi. Quels que soient les choix, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tristesse des fois même devant laquelle nous pouvons être, aide-nous à tourner toujours notre regard vers toi et à comprendre, à réaliser, toujours garder en mémoire, ne pas oublier que c'est toi qui nous as tendu la main le premier, que c'est toi qui nous as permis d'apprendre à marcher dans la foi, que c'est toi qui nous as conduit, Seigneur, sur le chemin de la foi, que c'est toi qui nous as délivrés une fois, ou deux, ou trois, ou plus encore, qui nous a guéris, comme on a entendu le témoignage tout à l'heure, que c'est toi, Seigneur, qui es la source de notre bonheur, de notre bénédiction. Et si des fois, Seigneur, il y a des événements qui éprouvent notre cœur, Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles à la pensée de l'éternité qui réside en toi. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur, au fait que c'est toi qui règnes, que c'est toi qui es vivant, que c'est toi qui dirige toute chose, qui est à l'œuvre dans nos vies, même lorsqu'on ne le voit pas tout le temps. Un jour, on pourrait être là à se réjouir parce que, Seigneur, je sens ta présence, notre jour. Seigneur, où es-tu? Mais je sais que tu accomplis ton œuvre jusqu'au bout. Et je sais que je peux continuer à témoigner de ta grâce et de ta bénédiction. Et que c'est toi qui prends soin de ces témoignages. Seigneur, je te remets chacun de mes frères et mes sœurs ici. Ceux qui sont là, peut-être ceux qui ne sont pas là, tu parles à nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que le changement que tu veux faire dans nos vies, dans nos cœurs, cette démarche que tu veux pour nous-mêmes, et devant toi, Seigneur, tu l'accomplisses pleinement. Je prie, Seigneur, que tu rendes nos cœurs souples devant toi, à l'écoute de ta voix, comme le dit ce chant. Que tu nous invites et que tu nous conduises à savoir humilier nos cœurs, à savoir courber notre dos devant toi, devant celui qui est, qui était et qui vient. À toi, Seigneur, soit toute la gloire pour ce qui se déroule dans nos vies, dans notre Église, dans notre nation. Nous te confions toutes choses, nous te remettons toutes choses parce que rien n'est dans notre pouvoir, rien n'est entre nos mains, mais tout appartient, Seigneur, et tout revient, Seigneur, à ta gloire. Tout revient à toi. Alors, Seigneur, nous te proclamons, nous t'élevons pour tout ce qui se passe aussi, Seigneur, dans notre pays, en ce jour, dans les jours qui viennent, pour toutes les choses auxquelles même les médias pourraient nous placer et qu'on pourrait se dire, bon, c'est comme ça, et Seigneur, et baisser les bras. Seigneur, nous voulons tendre les bras vers toi, tendre les mains vers toi, et proclamer que c'est toi qui accomplis ton œuvre, quelles que soient les circonstances. À toi soit la gloire, Seigneur.